Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi, Élisée Mpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis sportifs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc, on va essayer de retrouver Siaka Traoré, notre correspondant qui interviendra depuis Bamako, au Mali. Donc, lui qui a été nos yeux et nos oreilles à la CAN des moins de 20 ans Niger 2019. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Premier titre de champion d'Afrique junior pour le Mali vainqueur hier. En finale de la CAN des moins de 20 ans, les Aiglons se sont imposés 3-2 dans les tirs au but devant le Sénégal après un score d'un but partout à l'issue des prolongations. L'entraîneur du Mali, Mamoutou Kané Dimourlé, s'est réjoui de cette prestation des siens. Écoutons-le.
Le départ a été très difficile. Il fallait croire, il fallait insister, il fallait motiver les jeunes pour qu'ils puissent croire qu'on peut continuer. Dieu merci. Ça a été très difficile quand même. Il faut reconnaître que le Sénégal, c'est une grande équipe. Bravo aux joueurs. La clé du match était l'engagement. Il fallait être... C'est une finale. Il faut la jouer. Il faut tout donner pour gagner. Donc c'est ce qu'on a fait. Nous, on a déjà oublié à forcer. Ils ont forcé. Et finalement, là, ils pouvaient plus. Ils pouvaient plus. Ils voulaient aller au tir au but. Dieu merci. Nous aussi, on avait préparé cette séance.
Mamoutou Kané Dimourlé au micro donc de notre envoyé spécial à Niamey, Siaka Traoré, qui est rentré à Bamako. Alors, Élisée, le Mali a tout de même eu chaud et s'est fait peur en se faisant rejoindre au score à 15 minutes de la fin du temps réglementaire avant de reprendre le dessus.
Non seulement s'est fait rejoindre, mais il faut dire que les Maliens se sont fait dominer durant toute la partie, pour ne pas dire toute la seconde partie, puisque c'est vrai, les Maliens ont eu le prestige de marquer le premier but, puisque déjà dès l'entame de cette explication, tactiquement, c'est une équipe malienne qui était bien, si c'était bien installée, j'allais dire, dans l'entrejeu, avec à la récupération de très bons joueurs qui se sont battus. Et c'est vrai que côté sénégalais, techniquement, on a vu des joueurs qui étaient au-dessus. Il faut le dire, puisque les Maliens se sont inspirés véritablement de cette qualification face au Nigeria, puisque franchement, il faut le dire, durant toute la compétition, on voyait les Sénégalais remporter cette compétition. C'était la meilleure des formations de cette Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Eh bien, les Maliens ont pratiquement joué le 4 et on a vu que c'est une équipe qui a défendu du début jusqu'à la fin. Même après l'égalisation des Sénégalais, les Maliens étaient de très bons, vaillants joueurs, surtout au milieu de terrain. Ils se sont battus et sont allés jusqu'au tir au but. Ils étaient à droite, surtout grâce à leur gardien de but qui a détenu deux tirs au but. Donc, c'est-à-dire que les Maliens ont une force et ça s'est fait remarquer, justement, à l'époque des tirs au but.
Merci bien, Élisée. Nous avons retrouvé Siaka Traoré, qui est rentré, qui est présentement, bien sûr, à Bamako. Alors, Siaka, dites-nous, est-ce que les Aiglons sont rentrés et quelle est l'ambiance qui prévaut dans la capitale malienne?
Oui, bonsoir chers auditeurs de VOA Afrique, bonsoir Yacouba. Les Aiglons sont rentrés il y a juste quelques heures à Bamako, c'était la fête en ville. Hier, je crois qu'ils ont beaucoup fêté hier, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et hier, c'était beaucoup plus la fête qu'aujourd'hui. Bon, certainement qu'ils sont un peu fatigués, ils sont quand même rentrés. Et c'est la fête qui continue à Bamako et à travers le pays, le Mali.
Alors, vous qui avez vécu tout cela de près, dites-nous, est-ce qu'avant la finale, les Aiglons étaient confiants face quand même à une équipe du Sénégal, il faut le dire, qui a dominé sa poule d'abord et ensuite cette compétition jusqu'à tomber en finale au tir au but?
Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que le coach du Mali, Mamoutou Kané Mourlé, l'avait dit depuis le premier match, il dit, mon objectif c'est quoi? C'est de jouer 5 matchs et que le 5e match soit la finale. Et je crois que c'est ce qui a été beaucoup plus déterminant chez les jeunes maliens. C'est vrai, ils ont perdu le premier match. Mamoutou Kané, il s'est protégé, j'allais dire, ont cru ont cru, ils avaient la volonté, ils étaient motivés. Il fallait jouer pour gagner. Il fallait jouer pour gagner, il a toujours dit. Mon objectif ne change pas. Je crois que c'est ce qui a été le plus déterminant parce que il faut jouer pas un esprit de combat, mais plutôt un esprit gagnant. Et c'est ce que les jeunes ont dit. Nous ne l'avons pas accepté. Même après la victoire hier au stade Philippe Coutier, ils l'ont dit. Hein, nous ne l'avons pas accepté que le Sénégal qui nous a battus au match de poule, le premier match, que nous soyons encore battus encore une fois. Et nous allons nous défendre tout coûte que coûte pour que la victoire soit de notre côté. C'est ce qu'ils ont dit hier après la victoire.
Merci bien, Siaka Traoré. On va vous souhaiter un excellent repos après tout ce boulot abattu du côté du Niger. En face, déçu de cette défaite, Youssouf Dabo, l'entraîneur des Lionceaux, félicite tout de même ses joueurs.
Je veux dire merci à mon collègue parce que s'il place mon équipe au-dessus de la sienne, je dis merci parce que moi, ce que je dis aux joueurs, c'est vous êtes en formation encore une fois. Le plus important, c'est de gagner le respect de tout le monde parce que quand on fait un travail, il faut jamais accepter que les gens vous manquent de respect. Dans le contenu, on a fait tout ce qu'on devait faire. Maintenant, après, on est parti au tir au but, on perd sur un coup de dé. Après, félicitations au Mali parce que je pense que après le premier match, quand on les avait battus, en conférence de presse, j'avais dit que c'est une équipe qui peut aller jusqu'au bout.
Alors, Amdine, ça fait une troisième finale de suite perdue par les Lionceaux dans cette compétition. C'est quand même dur à avaler.
Tout à fait, Yacouba. C'est une nouvelle désillusion pour le football sénégalais, car les Lions viennent de perdre une troisième finale d'affilée, puisque après 2015, c'était ici à Dakar, les Lionceaux avaient perdu face au Nigeria. On pouvait comprendre parce que c'était une première finale. Deux ans après, en 2017, à Lusaka, les Lions avaient perdu, mais c'était face au pays organisateur, donc on pouvait également comprendre. Mais pour cette fois-ci, c'est dur à avaler puisque les Lions se sont cassés les dents face au Malien, une équipe qu'ils avaient battue lors des matchs de poule. Mais il faut dire aussi, Yacouba, que les jeunes Maliens méritent vraiment ce sacre puisqu'ils ont dominer ce match. Balotelli, même les Lionceaux, à un certain moment, pendant 75 minutes de jeu, avant de se faire rejoindre par les Lionceaux, grâce à Amadou Diaba, Amadou Diagne, qu'on connaît très bien, il a été meilleur buteur du championnat sénégalais avant de signer au FC Metz, qui nous a permis quand même de rejoindre au score. Mais la série de tirs au but a été fatale aux Lions qui ont perdu quand même. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de regrets puisque les Lions ont réalisé un parcours parfait. D'ailleurs, c'est la première fois qu'une équipe sénégalaise parvient quand même à faire un parcours sans faute dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Le record que détenaient les Lions de 65 a été battu puisqu'ils ont été éliminés en demi-finale après un parcours sans faute et l'équipe nationale olympique. Il faut dire, Yacouba, également que il y a beaucoup de regrets parce que tout simplement, le Sénégal était la meilleure équipe si on jette un regard sur les chiffres. 11 buts marqués, 2 buts encaissés. Le Sénégal a beaucoup de distinctions dans cette compétition. Le meilleur buteur, Amadou Diagne, qui a été que remplaçant, 3 buts et une passe décisive. Le deuxième meilleur buteur, un Sénégalais, Youssou Bachir également. Le meilleur joueur, un Sénégalais, Moussa Ndiaye. Le meilleur entraîneur, Youssou Dabo. L'équipe fair play, c'est le Sénégal. Le Sénégal a 5 joueurs dans le classement. Cela veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de regrets parce que le Sénégal a vraiment survolé cette compétition. Mais c'est comme ça en football, il faut apprendre de ces déconvenus pour pouvoir revenir encore plus fort, Yacouba.
Revenir encore plus fort, et ça ne saurait tarder. Cette CAN des moins de 20 ans, on le rappelle, s'est déroulée au Niger du 2 au 17 février. Une équipe, 8 équipes y ont pris part, disons, en dehors de l'Afrique du Sud et du Burundi. Il y a eu 6 pays de l'Afrique de l'Ouest à cette compétition. Le Niger, pays hôte, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Nigeria et le Ghana. Alors, Jules, comment expliquer cette forte présence ouest-africaine dans cette catégorie de compétition, alors même que les compétitions interclubs sont dominées le plus souvent par l'Afrique du Nord, qui n'a eu pourtant aucun pays qualifié pour cette CAN?
Oui, il faut dire que l'Afrique de l'Ouest a beaucoup progressé sur tous les plans à cause de sa politique de formation et du fait que les directions techniques ont compris que le football était devenu une industrie et qu'il fallait le prendre au sérieux. Donc là, c'est un bon point pour cette zone du continent. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est la zone qui a le plus de pays au sein de la CAF. Et donc, logiquement, quels que soient les paramètres, elle a le plus de chances d'avoir, disons, des participants aux phases finales.
Merci bien. Jules, alors Thierry, aucun pays d'Afrique centrale à proprement parler, hein, même si on a le Burundi partagé entre l'Est et le Centre. Qu'est-ce qui explique cela?
Ben, c'est le sérieux dans la formation des jeunes qui n'est pas assez remarquable en Afrique centrale. Hein. Je rejoins totalement ce qu'a dit Jules parce que j'ai eu à le dire et le répéter ici sur les antennes de VOA Afrique depuis plusieurs mois maintenant. Au vu des récentes participations du Mali et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest aux joutes africaines et internationales au niveau des jeunes, que cette partie du continent africain met beaucoup plus de sérieux que l'Afrique centrale, par exemple, dans la formation des jeunes. C'est somme toute très logique que l'on retrouve à cette sélection du Mali, que l'on retrouve régulièrement le Sénégal à ce niveau-là. Donc voilà, on salue justement la performance. Et c'est sur ça que je voulais insister. Il faut que cela serve d'exemple au Cameroun, à la République démocratique du Congo, où il n'y a pas encore de championnat de jeunes. En tout cas, ça piétine totalement à ce niveau-là. Il faut absolument que ça serve d'exemple à d'autres coins du continent africain, ce que sont en train de faire aujourd'hui les Maliens, les Sénégalais, les Ghanéens, les Nigérians et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux dans la formation des jeunes. On espère cette fois-ci que ces jeunes qui nous ont régalés ces derniers jours à travers cette CAN vont aller briller également à la Coupe du Monde, du moins pour les sélections qui sont qualifiées.
Merci bien Thierry. Je rappelle justement que les quatre demi-finalistes, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Mali et le Sénégal, représenteront le continent au mondial des moins de 20 ans du 25 mai au 16 juin en Pologne. Vous suivez Sporama, suivez VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Nous passons aux compétitions interclubs sur le continent et nous commençons par la Coupe CAF. La deuxième journée de la phase de groupe était au programme mercredi dernier avec encore une fois de plus plusieurs surprises à la clé. Tenant du titre, le Raja Casablanca reste toujours en quête de sa première victoire. Après son match nul sur le terrain d'Agadir 1-1 lors de la première journée, eh bien, l'Aigle Vert a manqué le coach en concédant un match nul inattendu à domicile face aux Congolais de l'AS Oto, 0-0. Alors Élysée, décidément, hein, il ne fait pas bon de porter le costume de favori dans cette compétition qu'est la Coupe de la Confédération.
Bien évidemment, puisque même le changement d'entraîneur n'a pas servi à grand-chose. C'est vrai qu'il reste encore 4 rencontres pour être vraiment fixé sur les qualifiés pour les quarts de finale. Patrice Carteron, limogé du côté de Al Ahly, qui a débarqué il y a quelques jours seulement avant cette rencontre. C'est-à-dire que les Congolais qui étaient à leur toute première participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique de la CAF, j'allais dire voilà, il faut dire que ça a été très difficile puisque les Congolais ont joué pleinement les chances, c'est vrai, surtout au niveau de la défense où le Béninois Apollinaire Dombiné a été remarquable durant toutes les 90 minutes, hein, il a été vraiment remarquable en déjouant beaucoup d'actions offensives de la part des Marocains. Maintenant, je l'ai dit tantôt, il reste encore plusieurs matchs pour être vraiment fiché sur les qualifiés. C'est vrai que Patrice Carteron aura beaucoup de temps pour pouvoir mettre en place son schéma tactique puisque Garrido était là, il avait remporté la Coupe la saison écoulée. C'est vrai que suite à son élimination en Coupe d'Arabe des clubs champions, il a été limogé. Patrice Capiron, là, la loupe, d'abri très loin, cette équipe du Raja de Casablanca.
Merci bien, Élysée. En tout cas, ce score profite à la RS Berkane qui a renversé le Hassania Agadir 2-1 dans le choc 100% marocain pour prendre les commandes du groupe A. Dans le groupe B, en quête de rachat et après sa défaite initiale face au CS Sfaxien 0-1, l'étoile du Sahel a dû se contenter d'un match nul au Burkina Faso face à Salitas 0-0. Un résultat qui n'arrange aucun des deux clubs puisque l'autre rencontre du groupe entre le CS Sfaxien et Enungu s'est soldée par un match nul aussi 1-1. Du coup, les Tunisiens Tunisiens du et du des Tunisiens du CS Sfaxien pardon et les Nigériens du Nouest donc en tête avec 4 points dans le groupe C, égalité parfaite de 3 points chacun après les victoires d'Asante Kotoko du Ghana 2-1 devant Zesco United de la Zambie et de Ghana 2-1 aussi face à Al Hilal du Soudan. Dans le groupe D, le club Kairo du Zamalek pensait bien tenir la victoire à domicile, mais il a été rejoint sur le fil par Hussein Dey 1-1 avec 4 points. Eh bien, Hussein Dey occupe la tête du groupe, tandis que le Zamalek est dernier avec une unité au compteur. Alors, Jules, le Zamalek, étonnamment, dernier de ce groupe-là.
C'est vraiment la surprise à mi-parcours pratiquement des matchs de cette poule. Mais le Zamalek a peut-être aussi souffert du fait qu'au moment où l'équipe s'apprête à prendre en quelque sorte la vitesse supérieure, il tombe sur une équipe d'Afrique du Nord et généralement les matchs entre équipes d'Afrique du Nord sont extrêmement tactiques et finissent le plus souvent par des nuls. Or, dans les matchs de poule, mieux vaut avoir une défaite et une victoire plutôt que des nuls.
Merci bien, Jules. Vous suivez Sporama, suivez Ouafrica. L'émission revient tout de suite. En Ligue des Champions, la quatrième journée s'est disputée mardi. Statu quo dans le groupe A, 0-0 entre l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Même score entre le WAC Casablanca et l'Obi Stars du Nigeria. Du coup, le WAC manque l'occasion de s'échapper en tête et reste co-leader de la poule A avec Mamelodi Sundowns 7 points, soit 3 points d'avance sur l'Obi Stars et l'ASEC Mimosa qui reste en vie tout de même. Pas de souci, hein, en revanche pour l'Espérance Tunis, tenant du titre, qui a pris ses assises en tête du groupe B en disposant des Orlando Pirates 2-0. L'Espérance de Tunis, justement, mêle Orlando Pirates à 3 points et les Sud-Africains sont dépassés à la deuxième place car les Guinéens d'Oréa, qui n'ont pas laissé passer leur chance en dominant, disons, le FC Platinum 2-0. Alors, Amdine, Oréa se remet quand même dans le sens de la marche.
Tout à fait. Oréa a réalisé une excellente performance en s'imposant à domicile devant Platinum sur le score de 2-0. J'ai suivi ce match qu'ils ont géré. Puisque à l'aller, ils avaient réussi l'espoir d'aller battre cette équipe. Au retour, ils ont géré et ils ont battu sur le score de 2-0. Je l'avais dit parce que dans ce groupe, il y a trois prétendants. Il y a l'Espérance de Tunis, Orlando Pirates et Oréa de Guinée. Et les Guinéens sont en train de saisir le champ, puisque les Guinéens ils commencent à avoir de l'expérience par rapport à cette Ligue africaine des champions. Et ils sont sur une très bonne voie, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Dans le groupe C, la seule rencontre au programme n'a pas accouché de grand-chose entre le club africain et le TP Mazembe 0-0. Donc, 10 jours après, le carton est des Congolais 8-0 à l'aller. Alors Thierry, il n'y a pas eu de revanche à prendre pour le club africain.
Ah oui, la revanche tunisienne n'était pas au rendez-vous. Par contre, il faut saluer le match solide des Corbeaux du tout-puissant Mazembe Gleber, qui ne se sont pas contentés que de défendre, mais qui ont également tenté quelques initiatives pour aller chercher ce score à l'extérieur. C'est une équipe de Mazembe sérieuse, combative, qui a tenu ce score nul jusqu'au bout et qui a même qui s'est même créé quelques occasions pour essayer de faire plus que cela et qui au final se retrouve en tête de ce groupe. Mazembe est très bien parti justement et les Corbeaux espèrent enfin trouver la bonne formule cette fois-ci et aller arracher ce titre qui leur échappe depuis 4 ans maintenant.
C'est tout le mal qu'on souhaite aux Congolais. Dans le groupe D, Al Ahly a été surpris 1-0 à Dar es Salaam par Simba, son nouveau dauphin qui en a profité pour dépasser V-Club, également doublé par son bourreau, la JS Saoura 1-0 et désormais dernier de la poule, de cette poule bien sûr D. Vous êtes toujours sur VOA Afrique avec Sporama. Nous revenons tout de suite. Nous parlons toujours de Ligue des Champions, mais cette fois-ci en Europe. Eh bien, Liverpool accueille le Bayern Munich demain à 20h temps universel dans le choc des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, pendant qu'un match, un piège attend le FC Barcelone de Messi, disons, à Lyon. Alors, Élisée, cette rencontre à Anfield entre le finaliste de la dernière édition, Liverpool, et le Bayern Munich, demi-finaliste aussi l'année passée, oppose quand même deux géants européens qui comptent chacun 5 sacres en C1.
Oui, 5 sacres en Ligue des Champions, et surtout que durant les 10 dernières années, le Bayern de Munich était souvent, bon, pratiquement en demi-finale. C'est-à-dire que à chaque saison, on considère surtout comme un favori maintenant face à Liverpool qui était en finale et qui s'est qualifié difficilement pour les huitièmes de finale. C'est vraiment, il faut le dire, puisque dans un groupe où il y a le Paris Saint-Germain ou encore l'équipe italienne de Naples, les Anglais se sont qualifiés difficilement face à cette équipe de Bayern de Munich où il y a beaucoup de joueurs d'expérience, hein, on ne peut pas les citer, hein, Ribéry, Robben ou encore Robert Lewandowski, le goleador de cette équipe. Ça va être un peu difficile, mais il faut le dire, hein, puisque depuis un certain moment, Sadio Mané, l'attaquant sénégalais, très en forme actuel, meilleur buteur de la première ligue, pourra permettre à cette sélection qui va recevoir les Allemands. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi Jürgen Klopp, hein, qui maîtrise le football allemand. Ça va être un match équilibré, vu la prestation de ces deux équipes. C'est vrai que Liverpool domine la première ligue et que le Bayern est second derrière le Bayern devant le Borussia Dortmund. Moi, je vois un match équilibré entre les deux équipes, mais attention à l'équipe du Bayern de Munich qui convoite à chaque saison cette Ligue des Champions.
Merci bien, Élisée. Pendant ce temps, on aura OL FC Barcelone à Lyon, deux cadors européens qui ont déjà fait les frais, hein, de la jeunesse lyonnaise cette saison. On se rappelle, le Manchester United de Pep Guardiola battu 2-1 chez lui et tenu en échec 2-2 chez les Gaules en phase de groupe, puis le PSG défait pour la première fois en championnat cette saison. Il y a 3 semaines dans l'antre des Lyonnais à l'Amdin. C'est un match, un piège, il faut le reconnaître, qui attend le FC Barcelone de Messi à Lyon.
Tu as parfaitement raison, Yacouba. Si on regarde ces deux équipes, c'est comme on dirait un combat entre David et Goliath. Mais attention, car Lyon est en confiance pour avoir battu Manchester City et avoir battu également Paris Saint-Germain. Et dans cette équipe de Lyon, on a des joueurs en confiance comme Moussa Dembélé, comme Memphis Depay, le milieu de terrain Ndombele. Donc attention à cette équipe de Lyon. C'est un match piège, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Mercredi, Manchester City se déplace chez les Allemands de Schalke 04. Atlético Madrid reçoit la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Alors Thierry, Ronaldo revient à Madrid.
Ronaldo revient à Madrid, et surtout dans une équipe qui lui a toujours souri. Hein. C'est quand on voit les stats de Cristiano Ronaldo lorsqu'il était joueur du Real Madrid. On peut se dire clairement, au vu de la dynamique positive qui est la sienne avec la Juve et qui est largement en tête de la Serie A, et lui qui a déjà mis 19 buts en Serie A pour sa toute première saison, que CR7 va essayer de briller, surtout pour faire passer un message à l'autre équipe de Madrid à laquelle il a appartenu pendant de nombreuses années. Et il va certainement se sentir dans la peau des merengues face aux Colchoneros et va vouloir véritablement briller avec la vieille dame, la Juventus de Turin, demain, mercredi, donc, face à l'Atlético Madrid, qui, elle également, s'est relancée après avoir perdu l'autre week-end face au Real Madrid. L'Atlético Madrid s'est imposé petitement pour se mettre en bonne condition avant ce choc au sommet contre la Juventus de Turin.
Merci bien, Thierry. Alors, Jules, avec vous pour finir, hein. Cristiano Ronaldo et sa Juventus Turin qui retrouvent l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Il faut s'attendre, bien sûr, à un match étincelant dans la mesure où on connaît les objectifs de cette Juve là cette saison, remporter la Ligue des Champions.
Oui, bien sûr. On aura un grand match, mais c'est un match très tactique. Et de par le fait que c'est le premier match, il est souvent déterminant. Et en plus, on a affaire à des équipes qui sont souvent attentives et très prudentes et qui frappent le plus souvent après avoir pris beaucoup de temps à observer l'adversaire. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que les deux équipes se neutralisent et que réellement, le vrai match qui les départage se joue quelques temps, disons dans quelques jours à Turin.
Merci bien, Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Ce sera en même temps votre mot de la fin. On attendra de voir tout cela mercredi, mais déjà demain aussi, il y a de grands matchs à ne pas manquer. On était avec Élisée Nkwatine depuis Boïkon au Bénin, Thierry Kamboundi de Top Congo FM à Kinshasa, Amdine Sy à Dakar, Siaka Traoré était des nôtres depuis Bamako au Mali. Sporama donc qui s'achève ici à la console Alfredo, Michel Joseph et Firmé Koyaweda étaient à la réalisation. Yakuba Wedraogo devant ce micro. On se retrouve la semaine prochaine.